在那中间。
La très belle voix de Maria Carta, qui est une chanteuse sarde que vous connaissez peut-être aussi. Après Gianna Nannini, qui elle est de Sienne, on voyage dans l'Italie. Ce sera aujourd'hui notre voyage de voix de femme, peut-être derrière les pas de Sabrina, qui elle aussi vient de l'Italie, tout comme Angelo d'ailleurs. Angelo, Sabrina, qui sont les héros du film réalisé, du film documentaire réalisé par Denise Gillan, Mon père, cet ange maudit, dont nous parlons en direct avec Denise Gillan aujourd'hui dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Si vous nous rejoignez, eh bien vous arrivez au bon moment puisque nous allons discuter maintenant de finalement comment la rencontre de ces trois personnages, Denise Gillan, Sabrina, Angelo, s'est faite. On a déjà découvert comment Angelo et Denise Gillan se sont rencontrés. Maintenant se rajoute le personnage de Sabrina. Alors, Angelo, Denise, vous avez déjà parlé de sa fille. Vous, vous le disiez tout à l'heure, je savais beaucoup de choses avant même de rencontrer Sabrina. Donc, vous saviez qu'il avait une fille, mais qu'il l'avait, il ne l'avait jamais rencontrée depuis toute petite.
Oui, je savais ça. Et Angelo m'avait souvent demandé si je trouvais juste qu'il reprenne contact avec sa fille. Étant donné qu'il ne l'avait pas reconnue et qu'il ne l'avait jamais rencontrée, c'était pour lui un conflit interne. Est-ce que j'ai le droit de l'appeler? Est-ce que je n'ai pas le droit? Est-ce que, en tant que père, ça légitimise le fait que je débarque dans sa vie sans lui avoir rien donné au préalable? Donc j'ai assisté effectivement à ce conflit intérieur.
Et vous avez vécu alors avec Angelo cette rencontre incroyable de Sabrina qui va tout à coup un jour recevoir un téléphone d'un homme qui lui dit « Je suis ton père ». Et ce que ce téléphone va avoir comme résonance dans la vie de Sabrina. Est-ce que vous étiez prête à être le témoin de cette rencontre au moment où vous avez décidé de faire ce film? Parce que ce film n'a pas tout de suite, votre film n'a pas tout de suite prévu la rencontre avec Sabrina de la même manière que ça s'est passé finalement dans votre documentaire. Non, je crois que là, il y a tout un cheminement où, à un moment donné, la réalité a rattrapé la fiction.
Oui. Alors bon, Sabrina et Angelo se sont rencontrés seuls. Je n'étais pas présente avec ma caméra. C'était quelque
non,
chose
ça,
qui
je comprends bien.
Leur appartenait complètement. Mais j'en ai eu des échos d'abord par Angelo. Plusieurs fois. Ensuite, il me disait « Oh, j'étais un peu déçue, je l'imagine autrement, mais elle revient dans 3 mois, on verra. » Et bon, ensuite, j'ai rencontré Sabrina, qui, elle, m'en a parlé aussi. Et suite à ça, j'ai eu envie d'écrire une fiction, en fait, inspirée de leur... tout d'abord de la vie d'Angelo, puis de leur rencontre. Et j'ai effectivement écrit le traitement d'une fiction qui imaginait ce que Sabrina pourrait faire comme parcours. En ayant appris comme ça d'un jour à l'autre qui était son père. Et il se trouve effectivement qu'une fois ce traitement terminé, Angelo un jour me téléphone et dit « Tu sais, c'est bizarre parce que tout ce que tu as écrit est en train d'arriver dans la réalité. À savoir, Sabrina attend un enfant, elle veut effectivement savoir plus sur mon passé, elle a envie de rencontrer ma famille. » Donc là, je me suis dit « Non, j'abandonne la fiction, il faut faire un documentaire. »
Parce que dans votre film de fiction, vous aviez imaginé que Sabrina, votre héroïne, serait enceinte et que ça la guiderait dans sa quête.
Oui.
C'est incroyable ça, que vraiment tout à coup, votre idée dans la fiction rejoignait une réalité.
Oui.
Ça vous a frappé, ça vous a aidé? C'est un signe pour mon film?
Oui, oui, immédiatement. Ça m'a frappé et... Bon, c'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur à l'envie de faire un documentaire. Avant ça, l'idée du documentaire ne m'avait pas effleurée. J'avais vraiment envie d'en faire une fiction.
Et alors, il a fallu à ce moment-là proposer à Sabrina de se joindre à son tour à cette démarche. Parce que finalement, cette démarche d'interview, de rencontre existait déjà depuis un certain temps avec Angelo. Mais tout à coup, il fallait que Sabrina accepte de faire cela. Et alors même qu'elle était à ce moment-là dans une phase pas du tout évidente de sa vie à elle, qui était la rencontre avec son père. Et donc... Elle a d'emblée accepté à la fois de faire ce chemin pour elle et de le faire pour vous, pour votre documentaire?
Non, 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 elle n'a pas accepté d'emblée de le faire. Elle, dans un premier temps même, elle a refusé. Ça lui faisait peur, elle n'avait pas du tout envie d'être filmée. Elle était d'accord par contre de raconter plein de choses oralement et que sa voix soit enregistrée ne lui posait pas de problème. Par contre, elle avait un problème avec son image et... Elle n'avait pas envie de mêler tout ça. Et de fil en aiguille, bon, elle y a réfléchi pendant 2-3 mois. Elle en a discuté avec Angelo. Et de fil en aiguille, elle s'est dit que finalement, c'était peut-être une façon, en acceptant de faire le film aussi, de parler de la prison. Et Sabrina est quelqu'un qui a toujours été très militant et très révoltée par la prison avant même de savoir que son père était un détenu. Et ayant milité pour obtenir de meilleures conditions d'incarcération en Italie, etc. C'est vrai que bon, à travers le film, elle y voyait quand même une façon de faire passer un message. Et en réfléchissant à la direction que j'avais envie de prendre avec le film, elle s'est dit que finalement, c'est vrai, leur histoire avait valeur d'exemple pour d'autres. Elle pouvait peut-être aider d'autres détenus, d'autres enfants de détenus. C'est pas une situation facile pour un enfant que d'avoir un parent en prison. Et voilà, être fil en aiguille, ça a pris 2-3 mois comme ça. Elle s'est dit oui, d'accord, je pense que ça vaut la peine de le faire.
Parce que c'est un des arguments que vous avez utilisé pour la convaincre, qui est de dire votre aventure, votre histoire à vous deux pourrait servir d'exemple à d'autres.
Oui, et c'est aussi, je crois, la motivation que j'y ai trouvée moi. À savoir que j'aurais pas eu envie de faire ce film si j'avais eu le sentiment que ça pouvait pas servir à d'autres, que c'était pas une histoire qui avait quelque chose d'universel.
Et qu'est-ce qui vous semble universel? C'est par exemple cette recherche que va commencer Sabrina avec vous de l'histoire, le passé de son père, de ses propres origines à elle, et sa quête du père qu'elle ne connaît pas et qu'elle va découvrir par ce cheminement, justement.
Oui, tout à fait. La quête du père, la filiation, et qui là sont mis en relief parce que Sabrina est enceinte.
Pourquoi ça joue un rôle si important? C'est que tout à coup, Angelo était aussi plus motivé à l'idée que non seulement il était père, il devenait père tout à coup, mais il allait être en même temps grand-père, parce que ça, c'est aussi un choc pour lui. Tout à coup, des liens de filiation très importants se créent très vite dans sa vie.
Oui, alors pour Angelo, c'était un choc et une grande peur, je crois. Parce qu'il disait, bon, je n'ai pas été père dans les actes, je n'ai pas voulu être père, je n'ai pas su être père. Est-ce que je saurais, est-ce que je pourrais être grand-père?
Mais d'abord, il fallait qu'il soit père. Il y avait une première rencontre qui était la rencontre avec Sabrina.
Oui, mais je crois qu'il ne s'est jamais senti père face à Sabrina. Même s'il est son vrai père, il a plutôt eu une attitude de grand frère, de conseiller, d'ami. Mais je crois qu'il a beaucoup de difficultés à se situer comme un père ou à jouer un rôle de père. Lui-même n'en a pas eu de père. Donc il n'a pas de modèle... Il n'a pas de modèle de père auquel il peut s'identifier. Pour lui, c'est une option abstraite, je crois, la paternité.
D'ailleurs, Sabrina dit quelque chose de frappant dans le film. Elle dit « Mon enfant sera le premier enfant à voir son père et sa mère dans notre famille. »
Oui.
Depuis trois générations.
Oui. Et le père d'Angelo, au moment où Angelo est né, était lui-même en prison. C'est aussi un gangster, un braqueur. Donc Sabrina pouvait s'interroger elle aussi sur l'enfant qu'elle attendait. Hein, c'était pas seulement être la première femme en trois générations à faire un enfant pas toute seule, c'était aussi un moment où elle enfantait un descendant de deux générations de truands.
Vous voulez dire par là qu'elle craignait qu'il y ait des répercussions génétiques de truanderie sur son enfant?
Elle aurait pu le craindre. C'est une question en tout cas dont elle parlait. Mais je ne pense pas que ça s'est ancré à aucun moment comme une peur chez Sabrina. Mais peut-être comme un défi, par contre. En disant, tiens, le grand-père et l'arrière-grand-père sont des truands, mon gosse deviendra peut-être avocat.
Vous le disiez, Angelo ne se trouvait pas vraiment père de Sabrina, mais plutôt son grand frère ou autre. Ce qui m'a frappé, c'est que Sabrina, elle dit souvent, d'ailleurs, dans le film aussi, Angelo, en parlant de son père, elle ne dit pas oui. Mon père. Alors... est-ce que c'est dû peut-être à ce triangle entre Angelo, Sabrina et vous, les conditions de tournage, le fait de devoir parler à quelqu'un d'autre qui fait qu'elle ne dit pas mon père, elle dit Angelo? Ou est-ce que c'est vraiment elle aussi sa difficulté à créer ce lien avec son père?
Non, c'est vraiment sa difficulté à elle. Sabrina a donc été élevée par un père adoptif qu'on a fait passer pour son vrai père pendant 18 ans. Donc la personne à qui elle dit papa existe. Donc forcément, quand elle a rencontré Angelo, c'était Angelo. Et entre eux, ils se disent, Sabrina et Angelo, ils se disent, jamais elle lui a dit papa.
On ne s'improvise pas papa dans le vocabulaire quand même, c'est un mot important
oui.
à dire.
Hein. Oui.
Vous qui avez été témoin de toutes ces rencontres, quelle a été votre position, votre place dans ces moments-là? Parce que vous allez donc, dans la réalisation du film, très concrètement, partir en Italie avec Sabrina, qui va partir à la recherche des membres de la famille de son père. Vous allez la voir dans ces moments-là. Elle va rencontrer les gens pour la première fois et les gens de la famille vont la voir aussi pour la première fois. Vous êtes donc avec votre caméra témoin d'un moment très intime, en fait. Est-ce que ça n'a pas posé de problème? Et vous, comment vous vous sentiez dans ces moments-là? Et d'ailleurs, à d'autres moments dans le film, dans des dialogues avec Angelo aussi, il y a des moments très, très, très intimes. Et on se dit, mon Dieu, il faut avoir du cran pour tenir sa caméra dans des moments aussi intimes. Ou bien on se dit, est-ce que ce n'est pas un petit peu voyeuriste? On est un petit peu partagé entre les deux sentiments.
Bon, alors là, avec Sabrina, on a eu deux démarches très, très différentes. Les gens qui, affectivement, pouvaient être importants pour elle, comme la nourrice d'Angelo, par exemple, on n'a pas filmé la première rencontre. En fait, on est allé, Sabrina et moi, rencontrer cette femme, Maria, de façon tout à fait privée et intime, comme deux amis iraient rencontrer quelqu'un. Et ce qu'on voit à l'écran a été reconstitué, en fait. Et ça pour protéger Sabrina, pour qu'elle ait ces moments d'intimité qui lui appartiennent complètement. Par contre, quand elle est allée visiter la famille de Nadoni, alors là, effectivement, c'était la première fois qu'elle rencontrait tous les oncles, les tantes d'Angelo. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à ce moment-là, la caméra est très très haut dans la cour. Oui, on s'est mis sur une terrasse en haut et eux se rencontrent en bas. On est très loin des gens, finalement. Et ça, c'était justement pour pouvoir leur permettre de préserver une intimité. On n'est pas proche d'eux. Maintenant, par rapport à Angelo, où effectivement il y a des moments dans le film où il pleure, où je comprends bien qu'en tant que spectateur, on puisse se dire, tiens, il y a peut-être un côté voyeuriste, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas coupé la caméra? Donc là, alors, la démarche était la suivante. J'avais prévu de montrer à Angelo un certain nombre d'images sur écran vidéo, d'images de la quête de Sabrina en Italie. Et forcément, il allait voir à l'écran des gens qu'il n'avait pas revus depuis une vingtaine d'années, des lieux qu'il n'avait pas revus depuis une vingtaine d'années. Et on s'était mis d'accord là-dessus. Je ne suis pas arrivée un jour avec mes images en disant « bon, ma crabe, boum, voilà, réagis ». C'est quelque chose qu'on avait préparé depuis 6 mois, 8 mois, on en parlait. Il s'attendait à ce qu'il allait voir. Il ne savait pas quelle image il allait voir. Il ne savait pas du tout ce que ça allait susciter chez lui comme type d'émotion. Par contre, il était d'accord de jouer le jeu. Et Angelo m'avait toujours dit, et ça pendant 4 ans, qu'il regrettait de ne pas pouvoir ressentir des choses. Il se trouvait anormal parce qu'incapable de sentiments, incapable de larmes. Il disait « je me suis barricadée, je me suis enfermée dans un coquillage, je suis dans une armure et ça me coupe du monde extérieur. » Et son rêve le plus cher était d'être comme tout le monde et de se dire, de pleurer, de ressentir, de constater que lui aussi pourrait avoir des émotions. C'est bien qu'au moment où il a craqué, quand je lui ai montré des images de sa nourrice, par exemple, ou des photos de sa mère, au moment où il craque, pour moi, c'était presque une joie.
Alors, enfin, les barrières sont tombées, enfin, oui. la carapace s'effondre.
Ouais. Et je savais qu'Angelo serait profondément heureux après d'avoir pleuré, d'avoir ressenti quelque chose, parce que c'était une inquiétude qu'il avait. Alors c'est vrai que ce qu'il en reste à l'écran pour le spectateur, c'est pas ça. Il voit un homme qui est incarcéré depuis 15 ans, qui pleure devant une image de sa nourrice. C'est vrai que ça peut faire un peu voyeuriste ou mélo. Mais en fait, dans la vie privée d'Angelo, c'était un moment important et je le savais. Donc...
Et ça, c'est comme réalisatrice, pour vous, c'est pas un problème de se dire, mais les gens risquent de comprendre comme ça, alors que moi, je sais ce que ça signifie. C'est un peu cette distorsion qu'il y a forcément, parce qu'on peut pas tout expliquer, tout dire forcément dans un film.
Alors oui, c'est un problème qu'on se pose au montage. on coupe, on recolle, on coupe, on recolle. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à laisser ces scènes-là. Et finalement, ce qui m'a décidé, c'est qu'Angelo n'est pas un personnage a priori sympathique. Les gens ne l'aiment pas forcément. C'est un truand qui a fait quand même pas mal de choses condamnables. Et dans le film, je trouve qu'il a 3 facettes. Il y a l'Angelo extrêmement froid, calculateur, manipulateur, l'ancien truand, qui est très antipathique. Il y a l'Angelo qui est père et peintre, qui est un homme mûr, sensible, intelligent, mais qui n'aime pas. Et puis, il y a cette autre facette d'Angelo qui effectivement est capable de larmes devant sa nourrice, qui là, elle a fait plus enfantine et plus humaine. Et au montage, j'ai trouvé extrêmement important que ces trois Angelo soient dans le film, parce que je me suis dit, si j'enlève ces larmes, qui font peut-être un peu mélo et un peu voyeurisme, mais si je les enlève, le spectateur ne va pas connaître le personnage en entier, et Angelo risque d'être antipathique. Et pour moi, c'est important qu'il ne le soit pas.
Forza del fuoco, guida i miei passi! Ballate, ballate, accordate i vostri passi ai miei, volteggiate al ritmo della mia danza! Venite, venite tutti vestiti a festa! Fuoco, danza intorno alla mia torcia, brucia più in alto!
Femme remue ménage, aujourd'hui, nous parlons avec Denise Gillan du film documentaire qu'elle a réalisé avec pour titre « Mon père, cet ange maudit », film que vous pourrez découvrir sur la télévision suisse romande dans le cadre de l'émission Temps présent, le jeudi 29 janvier à 20h10. Oh, j'y arriverai, mais vraiment, je me concentre comme une bécasse et je fais encore les choses faux. Que vous pourrez découvrir sur la télévision suisse romande le jeudi 29 décembre à 20h10. Et je vous propose d'écouter encore une chanson de Silvia Malaguggini.
Presenta dinanzi agli occhi, io in questo specchio vedo il sole tutto infuocato, arrostire uno spiedo di ghiaccio, quel traditore del principe del Marocco per aver rubato un gallo, una gallina all'osteria del Moro. Prendete del lardo vecchio, pergottatelo ben bene e datelo da mangiare a una brigata d'astomi. su, su, cavalier d'onore, di cui si salta il periglioso varco. Questa è la vera via dei mestri di Marghera, ove entro era la caldara dei maccheroni e le brache del Gonnella, sapientissimo filosofo.
Denise Julien, ce qui m'a beaucoup frappée aussi dans la façon dont Sabrina a participé à votre film, c'est qu'à la fois elle fait sa quête personnelle, donc très intime, à l'égard de son père, à l'égard de sa famille, de son passé, et puis en même temps, elle a cette capacité incroyable de porter tout au long du film un regard sur, par exemple, le monde carcéral, sur la douleur que peuvent ressentir les gens qui ont commis des délits. Il me semble qu'elle dit quelque chose à un moment donné qui est du genre... Quelqu'un qui commet un délit, il suscite beaucoup de souffrance chez les autres, mais bien sûr aussi chez lui. Elle s'abstrait de cette souffrance qu'elle-même a dû ressentir, de ne pas avoir de père pendant si longtemps, et à ce regard comme ça, extérieur, vous avez l'impression que c'est justement cette vie marginale à elle ailleurs, elle s'est construit son monde à elle, qui lui permet de faire cette démarche à ce point-là. C'est évidemment une question que j'aurais aimé pouvoir poser à Sabrina. Je m'excuse de vous la poser à vous pour des raisons très techniques. On en est absolument désolé. Nous ne pouvons pas appeler au téléphone Sabrina et ça tient à notre radio. Mais est-ce que peut-être vous pourriez nous donner quelques pistes de ce point de vue-là?
Alors Sabrina, ça la fait toujours beaucoup rire quand on admire sa capacité d'analyse et de recul, parce qu'elle s'en rend pas compte, elle n'est pas lucide par rapport à ça. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est une des qualités principales de Sabrina, elle est vraiment très jeune encore, et elle arrive à analyser absolument tout ce qu'elle vit. Elle est à la fois dans les choses et à l'extérieur des choses. Elle a toujours le point de vue de l'intérieur et le point de vue extérieur, comme si elle avait la capacité de se mettre 100 mètres plus haute dans le ciel, hein, et de regarder sa vie comme ça, de se dire, ah ben voilà comment je me situe, voilà qui je suis, voilà ce qui se passe autour de moi. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait sa force dans la vie et dans le film.
Parce qu'elle a dû aussi faire un chemin qui était dur pour elle, y compris dans sa vie quotidienne, parce qu'elle devait venir en Suisse, dans un pays où elle ne parlait pas la langue, puisque Sabrina parle italien, ne parlait pas le français. Oui. Donc, avec ce que ça veut dire, des démarches aussi d'entrer dans la prison, les mêmes que vous, elle y vient avec son enfant parfois. D'ailleurs, image assez étrange de voir un enfant pénétrer dans une prison, la notion d'enfermement est encore plus sévère.
Oui, c'est très dur.
Et ça, c'est un parcours vraiment très, très... Et quand elle était sur scène avec vous, à la fin de la présentation du film, on la sentait effectivement très, très fragile, alors que dans le film, on la sentait tellement solide. Il y avait un contraste assez important.
Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est très forte. Elle est très forte dans sa vie, elle est très sûre des décisions qu'elle prend, elle réfléchit les choses. Donc, à partir du moment où elle choisit, ben, par exemple, d'aller avec son enfant en prison, elle ne le remet plus en question. Elle l'assume, elle essaye de le vivre le mieux possible. Et c'est vrai que là, le soir de la première, elle a craqué sur scène. Elle était terriblement émue qu'autant de gens s'intéressent à elle. Elle se disait, mais moi, petite Sabrina, à ses yeux, pas très intéressante, pourquoi est-ce que tous ces gens-là m'écoutent comme ça et viennent voir ce film, enfin. Et ça l'a complètement émue et perturbée.
Alors vous disiez, vous espériez que ce film serve à plein d'autres gens. Est-ce que tout d'abord, vous avez eu la sensation qu'il a servi à Angelo et à Sabrina? Est-ce que chacun y a trouvé ce que quelque part il venait y chercher en acceptant votre proposition?
Oui, je crois qu'ils ont retrouvé ce qu'ils y cherchaient. Je crois aussi que le film leur a permis de mieux communiquer entre eux. Je sais qu'ils ont découvert des choses l'un de l'autre en voyant le film, en le regardant pour la première fois, où ils ont eu des réactions de part et d'autre, en disant « Ah tiens, elle pense ça, il pense ça, mais ça tu m'avais pas dit. » Enfin, donc effectivement, il y a beaucoup de choses qu'ils ont découvert à travers le film, mais ils ont dû parler de beaucoup de choses, de beaucoup de thèmes qu'ils n'avaient pas forcément abordés avant. Angelo, à partir du moment où il peut communiquer avec l'extérieur et dire qui il est, c'est important pour lui. Hein, il n'a pas beaucoup de moyens de communiquer. Donc ça, c'est sûr qu'il l'a trouvé à travers ce film.
Est-ce que c'est pas quelque part lui donner un faux espoir de sortie? Parce que quelque part, votre film aussi a beaucoup contribué à le faire sortir, pas seulement concrètement à l'extérieur de la prison, mais justement par le biais de cette communication, ça lui a dû lui donner de grands espoirs sur sa capacité à revivre à l'extérieur. Et il n'est pas sûr du tout de pouvoir revivre un jour à l'extérieur. Vous l'avez dit tout à l'heure, une peine de 15 ans est encore sur son dos pendante.
Je ne crois pas que le film ait donné espoir à Angelo de sortir plus rapidement. Je pense que le film a mis en marche un certain nombre de choses intimes pour Angelo. Par exemple, il a retrouvé, à travers la démarche de Sabrina et à travers le film, un certain nombre de gens qui lui étaient très chers et qu'il avait peur de recontacter, comme sa nourrice, un ami à lui ou bêtement sa famille. Et tout ça, c'est la vie continue. C'est un acquis pour lui. Il peut continuer à le vivre maintenant tout à fait en dehors du film. C'est la force des documentaires. Maintenant, je crois qu'à aucun moment, il s'est dit que le film allait lui permettre de sortir plus rapidement.
Pas vraiment dans ce sens-là, je pensais, mais plutôt en se disant, maintenant, je suis prêt. Avec tout ce qu'il avait pu découvrir dans le cadre des relations avec sa fille, des discussions, et aussi comme il parle de sa peinture, etc., on le sent prêt à revivre à l'extérieur, en disant, j'ai payé maintenant, je suis un autre homme, je peux être dehors. Donc, s'imaginer ce personnage-là, et pourtant, même s'il est prêt, c'est pas pour autant qu'il va pouvoir le vivre.
Oui, mais ça, je crois que c'est indépendant du film. Le fait qu'il se sente prêt, qu'il ait l'impression, et je crois que c'est vrai, d'avoir vraiment pu changer à travers sa peinture, à travers le contact avec sa fille, c'est quelque chose qui existe en dehors du film, qui existait avant le film. Donc bon, là, il a pu en parler, il a pu le dire à l'extérieur, ça le fortifie peut-être, mais je ne pense pas que ça l'ait changé.
Et vous pensez que si jamais, avec toutes les démarches qu'il vient de faire, si jamais il était condamné encore une fois à 15 ans de prison, est-ce qu'il aurait l'énergie pour accepter encore ces 15 ans de prison après justement tout ce qu'il a donné, enfin, pour faire ses étapes, ses démarches?
Angelo conclut le film avec une phrase qui dit « 2 ans, 3 ans, je suis prêt à attendre encore, plus non, j'en ai marre, j'en peux plus ». Donc à nous de l'interpréter. Je pense que là, effectivement, il vient de faire 17 ans de prison. C'est beaucoup. Il a le sentiment d'avoir payé par rapport à ses délits. Et non, à mon avis, s'il doit faire encore 15 ans, il va effectivement craquer.
Et Sabrina, elle aussi, est ressortie contente par rapport... Elle ne s'est pas sentie trahie dans ses démarches. Trahie, c'est un grand mot, mais peut-être acculée par la caméra à dire ou à faire des choses que peut-être elle n'aurait pas eu envie de faire. Parce que c'est un sacré pari que vous lui proposiez malgré tout, de partager cette démarche et ces moments-là avec une caméra dont elle sait très bien que ça va rendre son image très publique.
Oui, non, je crois que c'est le contraire. En fait, Sabrina avait très peur de la caméra, de sa propre image avant qu'on commence à tourner et au début des tournages. Et plus on avançait dans le travail, plus elle y prenait plaisir, plus la caméra l'amusait. Et quand elle a vu le film fini, elle était vraiment très, très heureuse. Elle s'est dit, mais c'est moi qui dis tout ça. Enfin, elle était complètement fascinée, notamment par le montage. Elle disait, ah oui, alors une fois que c'est monté, etc. Tout a pris un sens, un vrai sens. Pour elle, tout ce travail d'une année, qui a duré une année, qu'elle ne comprenait pas forcément toujours au fur et à mesure, tout d'un coup a pris une vraie valeur. Et ça l'a vraiment rassurée par rapport à sa propre image et à ce qu'elle peut donner à l'extérieur.
Quando giri per la città